tuturorum. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Să nu luăm aminte. În vremea aceea, intrăm în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănog care zăcea în pată. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele. Atunci unii din cărturare au zis în sinea lor: Acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, și în gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă, ca să știți însă că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele? Atunci a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ți patul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité. Or voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Aie confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. Quelques scribes se dirent en eux-mêmes: Cet homme blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs sentiments, déclara: Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire: Tes péchés te sont remis, ou bien de dire: Lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et mange. Et il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies d'admiration et rendirent gloire à Dieu d'avoir donné aux hommes un semblable pouvoir.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais continuer mes catéchés sur le baptême en prenant aujourd'hui, en faisant un petit commentaire sur une partie évangélique qui se lit pendant l'office du baptême. C'est une lecture de l'épître du Saint-Apôtre Paul adressé aux Romains. L'apôtre Paul, il est très, très juste dans ses paroles et surtout dans ce fragment, vous allez voir que qu'est-ce que signifie le baptême pour l'apôtre Paul et qu'est-ce qu'il devra signifier pour chacun d'entre nous le baptême. Frères, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Voilà le principe fondamental du baptême. On est baptisé en Christ, c'est-à-dire on est baptisé dans sa mort. On ne comprend pas peut-être qu'est-ce que signifie être baptisé, être jeté dans la mort du Christ. Mais la réponse vient de deux lignes plus loin. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Celui qui est baptisé, il meurt avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Celui qui est baptisé devient un nouveau homme, si vous voulez. Il laisse derrière lui tout l'homme vieux pour embrasser le nouveau homme. Le nouveau homme qui est l'homme ressuscité, qui est l'homme qui a la joie de la résurrection en lui-même. Un chrétien n'est pas un chrétien seulement dans son baptême, seulement dans le jour de son baptême. Le baptême doit être un sceau qui reste sur le chrétien toute sa vie, à partir du baptême et jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'autres variantes. Comme un prêtre n'est pas un prêtre seulement dans la liturgie et après qu'il finit la liturgie, il est un simple homme. Non, il est prêtre pour toute la vie, même dans sa famille, même entre ses amis, même dans la société, un prêtre doit rester un prêtre. De même façon, un chrétien, ce n'est pas un chrétien seulement dans quelques moments après le baptême et dans le moment du baptême. Le sceau de baptême reste pour toute votre vie, imprimé en vous. Vous êtes chrétien dans vos familles, vous êtes chrétien dans la société, vous êtes chrétien dans l'Église. Il n'y a pas une période quand vous êtes des chrétiens, il n'y a pas une période quand vous n'êtes pas de chrétien. Ça n'existe pas. C'est un non-sens. Le sceau, c'est en vous pour toute votre vie, à partir du baptême, parce que vous êtes morte avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Pour ça, c'est important de savoir qu'est-ce que se passe au baptême, qu'est-ce qu'on reçoit au baptême. On reçoit la grâce de Dieu pour devenir des hommes ressuscités vraiment de nos péchés, pour devenir des hommes qui cherchent vraiment la réalité qui est la dernière réalité, la ultime réalité, si vous voulez, ceux de la royaume de Dieu. Comprenons-le. Notre vieil homme a été crucifié dans le baptême avec le Christ pour que fût détruit ce corps de péché. Vous avez vu, je crois, en baptême, quand le prêtre prend l'enfant et il submerge l'enfant. Il couvre tout l'enfant de l'eau. Imaginez-vous que c'est une destruction du vieil homme pour que, par ce geste, le nouveau homme naître. Le serviteur de Dieu, on dit le nom, est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous croyez que ça, c'est pour un jour ? Ou pour deux jours, ou pour la fête qu'on fait pour le baptême? Non, c'est pour toute notre vie. Vous croyez que la prêtrise d'un prêtre, que c'est seulement pour la liturgie, et après il devient Basile, Grégoire, je ne sais pas qui, notre ami avec qui on boit une bière, avec qui on fait des blagues? Non, c'est pas ça. C'est le père Grégoire, c'est le père Basile, c'est le père quelqu'un avec lequel on peut boire une bière si vous voulez, mais en sachant toujours qu'il reste le prêtre, même dans sa famille. Donc, vous voyez un peu comment est-ce qu'on bouge dans l'Église. Quels sont les cadres de l'Église? C'est une liberté énorme du Fils de Dieu, mais en même temps, c'est en conscience qu'on ne peut pas revenir à notre vieil homme. Ça n'existe plus. Si on fait ça, on ne peut plus s'appeler chrétien, des chrétiens. Le simple fait qu'on est baptisé, nous ne donnons pas le droit de nous nommer chrétien. Je vous assure de ça. Tous ceux qui sont baptisés et qui sont rompus de l'Église après le baptême et qui viennent une fois par an à l'Église pour voir quel beau c'est l'Église, ça c'est pas de chrétiens. Ça n'existe pas. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont des gens qui font de l'Église une sorte d'une approche culturelle ou d'une approche, je ne sais pas quoi, nationale. Mais ce n'est pas des chrétiens. Quand tu es chrétien, il faut mourir pour l'homme de péché. Il faut s'immerger dans la vie de l'Église. Tout simplement, dans la vie de Christ. Quand tu aimes quelqu'un, mais tu aimes quelqu'un, tu le veux voir. Tu veux le voir, tu cours après la personne que tu aimes. C'est ça, un homme qui aime. Un chrétien, c'est un homme qui aime le Christ. Il court après le Christ. Vous avez vu le paralytique d'aujourd'hui. Il a demandé, ceux qui sont autour de lui, ont demandé au Christ, viens, viens guérir notre ami. Et le Christ, il est venu guérir, mais il faut demander au Christ de venir chez nous. Il faut demander au Christ de venir chez nous. Comment? En venir nous au Christ. En venant nous au Christ. En cherchant, en mettant des questions dans nos vies. Vous avez autant de questions, il y a autant de questions à poser. Posez les questions au prêtre. Sinon, au prêtre, posez les questions à Dieu directement dans vos prières. Et vous allez voir que les choses vont se déclencher petit à petit. Mais si on reste dans notre petit ghetto individuel, si on reste, si on s'ouvre pas au Christ, si on a toujours une attitude de laisse. Ça va tomber dans un jour, ma chance, de, je ne sais pas quoi. Ça va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Parce que le Christ, il frappe à notre porte. Mais si on n'ouvre pas, peut-être c'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire, de forcer l'homme. On dit toujours que Dieu, c'est à toute puissante, il peut faire toutes les choses. Sauf forcer la liberté de l'homme. Il ne peut pas entrer dans nos vies comme ça, comme un bulldozer, si vous voulez. Non, ça n'existe pas. Ne vous attendez pas à ça. Que Dieu va entrer dans vos vies comme un bulldozer. Non. C'est la discrétion de Dieu face à la face à une manière très je m'en fichiste, si vous voulez. Excusez-moi pour le terme. Mais c'est ça qu'on fait. Dieu vient se donner chaque dimanche ici, sous la forme de pain et de sang, et on ne vient pas. On ne veut pas du Christ. On est invité à la table du Christ, mais on ne veut pas. Pourquoi? C'est un mystère pour moi. Et nous sommes morts avec le Christ, mais nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Si la mort n'a plus d'emprise sur le Christ, la conséquence que la mort n'a plus d'emprise sur chacun d'entre nous. C'est un peu difficile de croire qu'est-ce que c'est ça, la vie d'après la mort, où il y a des comptes de feu de prêtre. Bon, c'est à vous de faire le démarche, de voir. L'Église ne peut pas obliger quelqu'un de croire. Mais revenez toujours à le pari de Pascal, qui a trois directions. Si Dieu n'existe pas et si je ne crois pas, ça va, il n'y a pas de problème. Si Dieu n'existe pas et je crois, bon, j'ai perdu ma vie. Mais si Dieu existe et je ne crois pas, qu'est-ce qu'on fait? Si l'enfer existe et si on ne fait rien pour éviter l'enfer, qu'est-ce qu'on fait? Au dernier jugement du Christ. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je ferai moi-même comme prêtre en sachant que je dois faire les fidèles s'approcher de la parole du Christ Quelle réponse je vais donner moi-même comme prêtre et vous aussi, si vous ne faites pas ça? On va dire, oui Seigneur, tu sais, on a essayé, mais on n'a pas. Non, ça ne marche pas. Quand tu aimes quelqu'un, ça ne marche pas. Tu dis, je t'aime, mais je n'ai pas envie trop de m'impliquer dans la relation. Ça n'existe pas. C'est une relation qui est ratée. Ça n'existe pas. Ou tu t'engages dans la relation et tu vas jusqu'au but au bout du monde avec celui que tu l'aimes, ou sinon, ça n'a pas de sens d'être avec le Christ et de pas faire des démarches avec lui. Bon, je m'arrête ici avec cette petite fragment de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains. Je vous conseille de le lire comme chrétien. Il faut commencer à lire la Bible. Je vous ai dit il y a quelques mois, quand je vous ai dit que nous les orthodoxes, on lit pas assez la Bible. C'est vrai. On ouvre la Bible une fois par semaine, peut-être une fois moins une fois par semaine. Lisez. Choisissez-vous des textes que vous aimez et méditez sur ce texte une semaine. Un texte n'importe quel, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Mais essayez de voir un peu comment la parole de Dieu travaille en vous. Parce qu'on croit que la parole de Bible est une parole révélée, c'est-à-dire qui a été inspirée par l'Esprit Saint, d'une manière ou de l'autre. La parole de Bible s'est révélée. Et il a en soi-même une force. Quand on lit ça, qu'on est mort par le baptême pour être ressuscité de mort par la gloire du Père, et ça doit travailler dans nos vies, ça va changer notre vie. On va plus regarder le monde comme on la regarde maintenant. Parce qu'on sait qu'on est des sujets qui peuvent faire par leur résurrection la résurrection du monde entier. On oublie ça trop souvent. On peut faire la résurrection de ce monde par Dieu. Et je vais finir avec un petit c'est pas une blague, mais c'est une chose un peu pour vous détensionner après cet engagement homilétique. Bien sûr, on s'approche de Dieu par la prière. Il faut s'approcher par la prière. Mais il y avait, on a eu le congrès de la métropole cette semaine à Paris, et on a eu comme invité le métropolite Séraphin, qui est le métropolite pour les paroisses roumaines d'Allemagne et du nord de l'Europe. Il a tenu un parole très, très profond sur la prière. Il disait, voilà, le chrétien, il doit toujours être en lien avec Dieu par la prière. Et en même temps, il a dit une chose très intéressante. Parfois, on se fatigue trop avec la prière. Parce qu'on cherche à faire des prières tout le temps, Vous savez, c'est le complexe de celui qui entre dans l'église et qui veut faire tout d'un coup. Et elle nous disait, voilà, j'avais une femme à Nuremberg, où il a le siège épiscopale, une femme qui chaque jour devenait d'un plus en plus maigre. Et à un moment donné, Monseigneur, c'est la femme, il a dit, voilà ma chère, mais qu'est-ce que se passe dans ta vie? Tu es malade? Non père, non Monseigneur, je prie 3 heures, 4 heures par jour, 5 heures par jour. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ta famille qui est? Ah non, parce qu'il faut toujours voir Dieu et ma famille, c'est à côté. Non, ça ne compte plus ma famille. Et comme Monseigneur Séraphim, c'était son père spirituel, il a dit, tu arrêtes maintenant avec les prières. Tu fais 20 minutes de prière intense, de vraies prières, et après tu t'occupes de ta famille, et tu goûtes la vie, et tu essaies de changer le monde autour de toi. À quoi faire 5 heures de prière quand on reste des égoïstes, des individuels à nous-mêmes, on ne s'intéresse plus des autres? Je fais mes prières, je fais ma liturgie, j'allume ma siège là-bas pour moi-même. Pas pour les autres. Les autres, non. Il faut sentir l'esprit communautaire du christianisme et de l'Église surtout. Quand j'allume un siège, j'allume pour moi. Pourquoi est-ce que vous amenez des diptyques ici? Pas pour ça, parce qu'il faut que le prêtre dise quelques noms. Non. Le paralytique d'aujourd'hui, je crois que c'est celui d'aujourd'hui, il a été porté par ses amis au Christ. Le diptyque, c'est une image de ce geste, sur le diptyque, on porte tout ce qu'on a dans nos cœurs. Les amis, les ennemis, les parents, les grands-parents, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts. Pourquoi ? Pour qu'on soit ensemble. Ça n'existe pas d'individualisme dans l'Église. Je ne prie pas pour moi-même. Je prie pour les autres. Et cette prière, c'est une prière vivante. C'est comme ça que c'est une prière vivante. Donc, pour revenir au Monseigneur Séraphin, il disait non. Tu arrêtes avec les prières et tu commences à être présent comme un chrétien orthodoxe dans ta famille et dans ta société. Parce que si on reproche quelque chose à l'orthodoxie parfois, c'est qu'on se replie trop sur nous-mêmes, en ignorant les autres. On se replie trop sur nous-mêmes. Vous ne sentez pas ça. Vous êtes dans une société, dans votre boulot, à votre travail, et vous tenez du carême, vous ne savez pas quoi faire, manger, ne pas manger. Il y a des petites questions comme ça, comment faire la prière? Non! Soyez intégral dans votre foi, mais en même temps dans une communion parfaite avec les autres. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Il disait, dans les chemins de païen, il ne faut pas marcher. Bon, il a dit ça, oui. Qu'est-ce qu'on fait nous appliquons toujours ça. On veut pas trop avoir des relations avec les autres, je ne sais pas, catholiques, protestants. Mais le Christ, il a dit, dans les chemins des païens, ne marchez plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parmi les premières femmes qu'il a guéries, c'était une païenne, c'était la Samaritaine. C'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans des contrées de Samaritaines, n'entrez plus. Qui était la Samaritaine qui l'a guérie? C'était une Samaritaine. Donc, voyez un peu. Le Christ, il nous donne des cadres. Il faut garder notre foi dans nos cadres. Il ne faut pas se mêler l'orthodoxie avec le bouddhisme. Ça ne marche pas. Il ne faut pas aller dans le chemin des païens. Ça, c'est vrai, dans notre foi. Mais dans la relation avec les autres, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'orthodoxie, ce n'est pas pour nous. C'est un ferment pour ce monde. Vous êtes ici pour témoigner. Vous croyez que votre présence comme orthodoxe ici en France, c'est par hasard? Je ne crois pas. J'ai regardé l'Assemblée, le congrès de la métropole, et je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas vrai. Il y a des centaines de paroisses orthodoxes en Occident. C'est incroyable. C'est un ferment dans l'Occident. On peut changer le monde avec notre orthodoxie, mais en sachant comment témoigner, comment vivre l'orthodoxie, comment être des gens qui resplendissent autour d'eux. Il ne faut pas être des gens qui affichent leur orthodoxie, mais qui témoignent par leur vie leur orthodoxie. Il ne faut pas dire, voilà, je suis orthodoxe, je ne parle pas avec vous les catholiques parce que vous êtes des hérétiques. Non, il faut témoigner votre orthodoxie. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de témoigner la vérité. Dégager d'une manière vivante, si vous voulez. D'une manière qui peut approcher les autres pour l'orthodoxie. C'est ça qu'il vous faut. C'est ça qu'il nous faut à tous. C'est ça notre résurrection de laquelle parlait l'apôtre Paul. De ressusciter les autres. D'avoir la force de ressusciter les autres. Je me rappelle maintenant, parce qu'il y a quand même parfois des remarques, des problèmes dans toutes les paroisses, pas seulement dans la paroisse de Toulouse, en ce qui concerne la langue, les Roumains qui veulent un peu plus de Roumains, ou peut-être jamais de Français, les Français qui veulent un peu plus de Roumains. Toujours, quand vous vous posez des questions comme ça, pensez, qu'est-ce que je donne aux autres? Dans quelle mesure est-ce que je peux renoncer à moi-même, à mon confort linguistique, si vous voulez, pour que je voie l'autre se réjouir du Christ? Quelle joie avez-vous après une liturgie quand vos frères ne se sont pas réjouis du Christ? Quelle joie vous pouvez avoir quand un Français qui entre dans une église ou un officier, quand un Roumain ou un Russe, je ne sais pas, ou un Grec, il ne comprend rien. S'il y a un seul qui nous comprennent dans nos églises. Il faut tous demander au prêtre de prier dans la langue de celui qui entre dans l'église pour qu'il comprenne. pour qu'on témoigne le Christ aux autres. On ne tient pas le Christ pour nous, parce que ça n'existe pas. L'égoïsme n'existe pas dans l'orthodoxie. Dites aux autres, invitez les autres au Christ. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas garder pour nous-mêmes le Christ. C'est une manière très égoïste. Non. Renoncez à votre confort linguistique, par exemple. Renoncer une carte de liturgie, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de dire un quart de liturgie en français, même s'il devra être un peu plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent. Mais témoignez de Christ aux autres. On est reconnus, nous, les Roumains, par exemple, qu'on est des gens accueillants. Voilà, il faut mettre en pratique ça. Il faut dire aux autres, venez et écoutez le Christ. Il ne faut pas rester comme ça, là, c'est trop en français, c'est trop en roumain, je ne supporte plus, je pars, je m'en fiche. Non, ça n'existe pas, non. Donnez le Christ aux autres. Amin. J'ajoute rien à ça. Je m'arrête ici en disant encore une proposition. Le Christ doit être pas ma joie, mais la joie d'autres. Et si le Christ serait la joie d'autres, moi, je vais me réjouir beaucoup plus de ça, en communion avec les autres. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne cet esprit de comprendre que le Christ, il est venu pour sauver tout le monde. Mais tout le monde, quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Tout le monde, pas seulement nous. Que Dieu nous bénisse.